once.
Tous, bienvenue au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bon lundi matin, bon lundi printanier. J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous êtes en forme pour une belle émission encore. Mon nom est Nelson. Je suis en compagnie du seul et unique Marc-André Jutras. Comment vas-tu ce matin?
Je vais très bien. Après une tonne de freaks comme ça, là, je suis sur le piton. J'ai envie de danser, j'ai envie de skanker, j'ai envie de stage diver. J'ai envie que mes œufs soient revueltos, sauce picante, por favor. Hey, c'est le matin on fire!
Sauce picante, por favor. Por c'est favor. Ce que je retiens de tout ce que tu viens de dire. Merci pour ça, Marc-André. C'était savoureux.
C'est savoureux.
Alors, c'était quel groupe veux-tu présenter la pièce musicale qu'on vient d'écouter?
Ska Sound System, directement de Montréal. label, l'unique.
Le Ska Sound System.
Là, tu vas dire, à qui sont les Ska Sound System?
Qui sont-ils?
Qui sont les Chiefs? Vas-y, mon chef.
C'est à moi de les introduire.
Vas-y, t'es capable.
Alors, le Ska Sound System, là, c'est un groupe formé de membres de groupes montréalais, dont Grimskunk,
yeah.
Me, Mom and Morgan Tyler,
yeah, yeah.
Collectivo,
yeah, yeah.
Foolish,
yep.
Les Francs Bâtards,
yep, yep.
Les Van Ornies, qu'on a introduit la semaine dernière,
ben oui.
Et Blue Monkey Project.
Je ne connais pas ceux-là.
Moi non plus, je ne connais pas. Donc, je vais lire. Ben, veux-tu que je lise le petit
ben
communiqué
oui, t'es
qu'on a reçu
un petit communiqué
pour présenter le nouveau
cette
projet.
Cette pièce qui vient de sortir, qui est tout fraîche.
Donc, la pièce Freaks du Ska Sound System, née d'un amour partagé de musique ska et punk et d'un besoin post-pandémique de jouer, chanter, danser et faire le party, des amis musiciens et musiciennes de Montréal partent un projet pour le fun, le Ska Sound System. Comme je mentionnais, c'est formé de plusieurs groupes montréalais. Les deux premiers extraits originaux, Freaks et Bad Vibe, ont été lancés en avril 2023. Ce band n'a nulle autre prétention que de faire chanter, danser et triper les gens à travers la musique diversifiée old school et moderne de ska et punk, inspirée de groupes comme Sublime
et Operation Ivy,
The Clash, The Specials, Rancid, Toots and the Maytals, etc., etc., et notamment quelques classiques de Grimskunk, comme certains membres de Grimskunk font partie de ce nouveau projet du Ska Sound System.
Dont Franz.
Franz, le chanteur.
Eh oui, et dans ce groupe-là et son groupe de San Pancho au Mexique.
Ils ont déjà donné quelques spectacles en 2022 et ils s'apprêtent à refaire d'autres spectacles en 2023. Donc, on surveille les dates sur leur page Facebook. On peut déjà dire que le 29 avril au Café de la Ligne Verte,
oui,
il y aura un lancement du single qu'on vient d'entendre. Et d'autres dates, donc le 5 mai à Québec, le 6 mai à Knowlton et le 20 mai à Les Éboulements. Donc en tournée au Québec.
Surveillez ça. Et ils ont sorti un vidéo de Freaks qui paraît qu'il est en animation. Fait que ça va être à voir sur votre chaîne YouTube favorite.
Excellent, excellent groupe. Vraiment, ça me donne vraiment beaucoup envie d'aller les voir en show live.
Ben, c'est ça qu'on va aller faire, je te le dis. Prépare-toi.
On y va. Verte.
On ira pas aux Éboulements. Je sais même pas c'est où.
Je connais pas le...
Mais Ligne Verte. Café Ligne Verte, c'est le café de Chantal Arroyo de Collectivo Overbass Slash.
Okay.
C'est un café qui a du jazz, de la musique latine, des gens de la scène Montréal hardcore et alternative qui vont et qui se tiennent là. Beaucoup de spectacles. Et c'est sur Ontario, 6 jeunes m'abusent.
Donc, c'est dans le centre-sud, village?
Oui, je vois.
Dans ce coin-là?
Oui,
okay.
Exact.
Donc, le Café Ligne Verte, le 29 avril, pour aller voir le Ska Sound System.
Hey, en parlant d'héros locales, ben, on vous invite à aller voir ce spectacle-là et tout supporter, surtout la scène locale, les spectacles qui viennent. Parce que là, les groupes, c'est le printemps et l'été, et là, les groupes vont recommencer à jouer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en parlant de héros locales, ben, c'est déjà passé, mais il y a un groupe qui a été nominé au prix Juno de l'album Metal / Hard de l'année. On avait Synchro Anarchy, on avait Psychic Jailbreak des Cancer Bats, on avait Paid in Full de Skullfish, Fist, aucune des sont qui, et Tough from Descent de Wake. Et qui a gagné, c'est nul autre que Synchro Anarchy de Voivod!
L'album de Voivod a gagné un prix?
Oui!
En 2023.
Oui, juste là, des Juno, là, ça, c'est
des Juno 2023.
Ouais,
incroyable.
Les prix canadiens, c'est comme les Grammy Awards.
Ouais.
Mais nous autres, on appelle ça au Canada les Juno.
Les Juno.
Les Juno, ça se passe à Toronto, généralement, ou des fois en Alberta, ça dépend. Et là,
très bien.
Voivod, ça va bien, ils ont le vent dans les voiles, ils ont fait revivre, là, on a appris ça dernièrement, là, c'est pas une nouvelle fraîche, mais c'est quand même assez récent. Voivod ont fait revivre le thème d'Ultraman. Là, tu vas me dire, mais qui est Ultraman?
C'est le dessin animé japonais.
Japonais, culte, des années 60.
Fait qu'ils 60?
Ont... Ah oui, ouais, 60. Okay. Fait qu'ils ont fait un EP et ils ont fait la chanson thème et ils l'ont fait en reprise en français, en anglais et en japonais.
C'est vrai?
Sa langue d'origine.
Veux-tu nous chanter un extrait de du thème de Ultraman, Marc-André?
Arigato. Non. Faut dire que Michel Langevin, et oui, le drummer, est un gros fan de science-fiction. Et quand il était jeune, il tripait fort sur Ultraman. Et là, ben, il a eu la chance là, de jouer cette pièce-là. Puis il l'avait introduite dans la version bonifiée de l'album qui a gagné, là, Synchro Anarchy, sur laquelle on retrouve le concert Return to Morgoth, enregistré en 2018 à Jonquière. Puis là, il avait perdu la traque, ou en tout cas, ils ont retrouvé ça, puis ils ont fait un EP. Check comment que la pochette est très cool. Je ne l'ai pas encore entendu. C'est Voivode, Ultraman, avec des lettres, le logo de Voivode. Et là, tu as Ultraman on va dire, graphiquement fait par Michel Langevin. Fait que c'est très, très cool.
Le visage de Ultraman, version métalleux.
Ouais, métalleux avec des pics qui sortent un peu à la Corrosion of Conformity. Là.
Noir et blanc.
Ouais, qui sort de partout. Fait que, très écoutez cool, ça. Hein. Félicitations, les boys. D'autres membres, il y a Denis Snake aussi à la Vox. Il y a. Moi, j'ai ça très dernièrement. Mais le guitariste, on le savait, M. Mongrain, Dan Chewy Mongrain, qui est professeur, qui était dans Martyr, qui est professeur de guitare au cégep Lionel Groulx, si je ne m'abuse. Et Dominique Rocky Laroche, j'ai ça très dernièrement. Il y a un magasin à Trois-Rivières qui s'appelle La Puce Rock. C'est un place de vinyle, fait qu'on va y aller. On va aller à Trois-Rivières.
Let's
go. On salue les trifluviens. Et Monsieur Dominique Laroche Rocky, qui est le bassiste de Voivode, habite là. Fait qu'il va à ce magasin-là. Il montre les albums qui l'ont influencé en tant que musicien puis en tant que jeune homme quand il était adolescent. Et moi, j'ai ça en écoutant une autre affaire de La Puce Rock. C'est comme des petites capsules de 10 minutes sur les albums qui l'ont influencé. Fait qu'ils vont dans le magasin, les artistes, et ils pigent des vinyles. Okay. Et là, ils en parlent. Et là, Steve Hill, qui est un guitariste de blues rock,
ouais.
Qui avait dans ses rangs à un moment donné? Ben, ce bassiste-là. Il a fait un album de rock blues, Steve Hill, que j'aime beaucoup, qui fait du blues. Et qui était dans le band? Monsieur Rocky Laroche, dedans.
Dave Mongrain.
Non, pas Dave Mongrain, c'est Dominique, c'est le bassiste, Rocky Laroche. Fait qu'il y a un lien. Fait qu'il a joué pendant un bout, il paye de blues, il a payé ses dû au rock'n'roll blues. Et là, il était dans le plus metal.
Okay.
Ils sont allés le chercher. Mais moi, quand j'ai vu une vidéo, quand j'ai vu quelque chose qui montrait Steve Hill, puis je dis, voyons, c'est le bassiste de Voivode.
OK.
Fait que j'étais bien content. Fait que chapeau à tous les membres de Voivode. Pour cette pour avoir fait vivre le thème d'Ultraman, mais d'avoir gagné un Juno.
Un prix.
C'est bien mérité.
C'est-tu leur premier prix, tu penses, considéré?
Non, ils en ont déjà gagné un autre au Canada.
OK.
Oui, aussi. J'imagine. Cancer Bats de Toronto, je sais quoi, les deux autres, j'ai jamais entendu parler d'eux autres.
OK. Fait
que je vais faire des recherches, mais Voivode, il le mérite. N'importe qui se présente, Voivode.
Mérite. Ah, okay. Mais je dois t'avouer que je savais même pas qu'il y avait un prix pour une catégorie
de métal.
De métal au Juno.
Ben, ils doivent pas le montrer. J'écoute jamais ça, là. Les remises, là, ça doit être hors d'onde.
On est mal placé pour savoir.
C'est en après-midi, là, tu sais, un peu comme d'autres prix. Okay. Aux Grammys ou même,
comme au pré-gala, tu vois.
Au pré-gala.
Okay. Et Voivode, oui, super groupe qui existe depuis 40 ans à peu près. Là,
exactement.
Je ne sais pas trop. Là. Excellent.
Qui a un second souffle. C'est pour ça que je parle de Dan Chewy Mongrain et de Rocky. C'est parce que les deux autres, ils ont tout le temps gardé le flambeau de Voivode. Il y a eu des hauts et des bas. Mais on dirait que ça leur a donné un deuxième souffle après la mort malheureuse de leur guitariste-compositeur Denis Peggy, mais là, avec Dan Mongrain à guitare qui compose, tu sais, c'est pas juste des covers là, qu'ils font là, de Voivode, là, ils recomposent, tu sais, un second souffle.
Des nouveaux albums.
Ouais, Fait que écoutez ça. On les salue. Hey, super bonne émission. On s'éparpille, on est excité. C'est le printemps. C'est le printemps, c'est l'été. On va vous faire jouer de la musique comme ça, ska ensoleillé. J'ai une bande dessinée, j'ai un film, j'ai beaucoup de musique. On le va tout de suite en musique?
Ben ouais.
Peux-tu se gâter? Ouais.
On se gâte.
On se gâte.
Let's go.
J'ai-tu touché au bon piton? On va voir ça à l'instant même.
Le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une magnifique pièce musicale de notre artiste acadien préféré, peut-être.
Oui, monsieur.
Lisa Leblanc.
Oui, en France présentement.
Et le nom de la pièce?
C'était Runaway Queen.
Runaway Queen de Lisa Leblanc.
La reine qui est en course folle, est en tournée en Europe, justement. Et là, ben, c'est l'album Why You Wanna Leave Runaway Queen. Et cet album, je suis en train de me demander si on l'a déjà fait jouer, mais c'est pas grave, j'assume mes défauts. Et cet album-là, il est super bon. C'est pas mal, c'est tunes en anglais. Après le succès du premier album, elle s'est gâtée, elle a fait un album en anglais qui a la tune Ace of Spades et l'espèce de hold-down d'intro solo de banjo. Tu sais, on sait qu'elle joue du banjo comme une guitariste émérite électrique. Fait que c'est ça. Puis la pochette de cet album-là, c'est une Lisa Leblanc avec des bottes de cowboy, une petite robe, son banjo. C'est qu'est-ce qu'il y a sur le dash?
En fait, c'est une figurine de Lisa Leblanc.
C'est une figurine, oui. C'est comme une petite tête d'Hawaiian bubble. Qui est bobblehead, là, ouais. qui joue sur le dash.
Qu'on met sur le dash de la voiture.
Et là, ils ont une vanne. Il y avait à ce moment-là, l'album est sorti sur Bandcamp en 2018, je ne me trompe pas. C'était une vanne qui avait de la peinture airbrush sur les côtés de la vanne. Et c'était une runaway queen, là, c'est de toute beauté. Il y a un petit côté chasseur, fait que t'as des cerfs dans la neige, des cerfs de Virginie ou des orignaux, tout le kit. Et là, t'as la queen, là, t'as la reine qui est sur un cheval. Je vous décris la pochette. L'intérieur de la pochette, c'est un cheval fait au airbrush. Super bien, belle réalisation. Avec une espèce de, tu sais, Sheena, le queen of the desert, ou, ouais. Tu sais, une reine amazonienne avec une lance, merci, et les cheveux au vent, et dans une espèce de forêt un peu marécageuse, mais canadienne en même temps, parce qu'il y a un sapin. Fait que ça, c'était le côté de la vanne. Fait que si vous voyez une vanne, comme une Econoline camper, se promener avec ça, ben c'était, d'après moi, la vanne de tournée de Mademoiselle Lisa Leblanc et son groupe. Et moi, cette pochette-là, la description que je vous fais là, du airbrush, c'est très influencé là, par un autre de mes dadas, là, Frank Frazetta, là, le Godfather of Fantasy Art à New York, c'est un artiste américain là, qui est maître du fantastique, de la science-fiction.
Ouais.
Ben, totalement influencé de ce grand monsieur-là.
C'est à la manière de Conan,
The Barbarian, ouais. Ouais. La pochette, là, le VHS, ou si vous aviez le bêta, encore mieux. C'est ça. Hey, en parlant de tournée, ben, il y avait un gars qui tournait avec un groupe qu'on aime beaucoup, qui sont en train de préparer un nouvel album. On n'a pas de scoop comme Freaks tout à l'heure, rien de ça, mais on sait qu'ils le préparent. C'est les Breastfeeders.
Un nouvel album des Breastfeeders
oui,
qui s'en vient,
oui,
Marc-André?
Oui, tu savais pas?
Je le savais pas.
Je te le dis.
Oh my God.
Ça va être cool, hein?
J'ai tellement hâte.
Puis ils vont faire des shows.
Ils vont faire des shows bientôt?
Oui.
Ça se passe quand, le sais-tu?
Non, peut-être non, mais je sais qu'ils font des spectacles en dehors de Montréal, là, plus ils se promènent au Québec.
Donc en 2023.
On le souhaite. Mais ils sont en train de bûcher sur un nouvel album. All on right. a très hâte. Toi, tu les as vus très souvent dans tes années universitaires.
C'est vrai.
Et là, il y avait un guitariste qui. Là, checker le lien, checker comment je suis
fort,
réveillé. Un gars qui joue avec Lisa Leblanc en ce moment. Je sais pas s'il est dans la tournée européenne, mais le spectacle qu'on a vu au Québec il était là.
Ouais.
Et il a joué dans les Breastfeeders. Il a joué dans son propre groupe. C'est nul autre que monsieur Sonny Duval.
Sonny Duval, un grand guitariste.
Un grand guitariste, très grand guitariste. Et là, monsieur avait écrit dans le feu journal La Presse papier,
okay.
Il y avait un cahier qui s'appelait tout simplement... c'était une chronique, là. Ça s'appelait LP/2. LP peut-être La Presse 2.
Ouais, je m'en souviens de ça. C'était un genre de cahier culturel qui était inséré dans La Presse, là, le week-end, quelque chose du genre.
Exactement. Là, ouais. C'est la fin de semaine, exactement. Et M. Sonny Duval écrivait dans le journal-là pendant plusieurs semaines.
Okay.
Et là, il y a eu un recueil qui a été fait sur Coup de tête. Et là, tu as à peu près toutes les chroniques qui ont été publiés dans ce journal-là. Là, tu vas me dire, qui est Sonny Duval?
Mais qui est Sonny Duval, Marc-André?
Sonny Duval, il est né à Montréal en 1995. Il est le guitar hero d'une
histoire de France. Sonny Duval est né à Montréal en 1995?
Oui, écoute!
C'est impossible.
D'une histoire de François Duval. Il aime rire, danser, chanter, boire et tenter de se reproduire. Sonny Duval, c'est le... Tu sais, Dr. Jekyll and Mr. Hyde?
Oui.
C'est le double. C'est la bête de scène. C'est le guitariste, le guitar hero.
OK.
C'est Sonny Duval. Il n'est pas né Sonny Duval à Trois-Rivières. Il s'appelait François Duval.
François Duval.
Puis là, lui, il est né à quelques kilomètres du centre-ville de Trois-Rivières en 1972.
Ah! Tu pas comprends? En 73.
Non, ça, c'est
en 72.
Okay, un an avant. Ils préparaient l'année 73. Avant 73 et 72. Puis là, à force de dessiner des bonhommes, à tracer des lettres, puis des mots qu'ils forment à partir de ces mêmes lettres, ben, il écrit des histoires qui se retrouvent dans des chansons et dans des journaux. Et c'est ce qu'on a. C'est les chroniques de... Des chroniques assez simples, là, t'sais, en deux, trois pages sur les choses qu'il aime, à part jouer de la guitare avec ses amis, la vie de tournée. Et le titre, ça s'appelle « En dessous », comme « Underground ».
En dessous.
En dessous. Mais écrit « En dessous ». Il faut prononcer.
En joual.
On est au Québec, ça demande ça se passe. Fait que là, c'est une histoire folle. Il parle de la mort, il parle de ses rencontres, il parle qu'il aime rouler en vélo qu'en voiture, il aime boire de la bière plutôt que du champagne, il aime s'aller dans le petit bar du coin plutôt qu'aller dans les soirées à paillettes, il aime mieux sourire, avoir le sourire collé, puis fumer des herbes d'orchestre que faire des petites lignes blanches. Fait que c'est tout ça. C'est un hommage aussi à une grande ville qu'il aime beaucoup, son histoire d'amour, avec la ville de Montréal.
OK.
Parce que lui, on le sait, il se naît à un bar sur la rue Saint-Denis.
OK.
C'est une cave. Tu sais, tu descends, c'est comme dans la cave. Ouais. C'est des murs de pierre.
L'Escogriffe.
Ben, avant, c'était l'Escogriffe, là, c'est l'Esco. Ouais.
Exactement.
Fait que c'est ça. Fait que c'est tout ça. Il parle de ses compagnons de route, de fortune, dans le groupe Breastfeeders. Il leur a tout donné un petit nom. Si tu connais un peu les Breastfeeders, ou le monde qui gravite autour d'eux, tu reconnais qui est qui. Il y a un nom de fille, ben c'est pas dur à deviner c'est qui. Il l'appelle Kiki, tout ça. Fait que c'est super intéressant, c'est anecdotique. Il part du coq à l'âne, mais ça se lit très bien. Moi, j'aime ça. En deux, trois pages, t'as, admettons, un esprit saint dans un corset. Ça, c'est le titre de les trois prochaines pages qui s'en viennent. Là, t'en as un autre, c'est au sud du South. Parce qu'ils sont allés jouer à New York, les Breastfeeders. Et ça a pogné.
Oui,
même ça, ouais, même ça a pogné dans une petite affaire, même si le monde ne comprenait pas.
En français,
ils ont senti l'énergie. Mais il doit y avoir des Québécois et des Français là-bas. Mais le public new-yorkais ont embarqué. Ils ont trouvé leur énergie contagieuse. Et il faut dire qu'il y a M. Maldoror.
Oui, le chanteur.
Le
Johnny.
Oui, Johnny, celui qui joue du tambourin.
Ah, pas le chanteur,
le fou.
Martin Fontaine.
Oui, Martin...
Non, c'est ça, Fontaine?
Non.
Non, faut...
Dubreuil, non.
Martin Dubreuil?
Non, ouais, c'est pas ça.
Et pas là.
En tout cas, c'est un comédien qui joue dans les Breastfeeders.
Oui. Hey,
on est plus réveillé. On l'était réveillé, là, on s'en va se recoucher. Il y a Black Sabbath. Pas Black Sabbath. Black Sabbath, c'est qui? C'est leur gars de son. C'est leur technicien de son. C'est le gars qui les amène en tournée, qui est sympathique, hédoniste, blagueur, qui est pauvre, mais qui est finalement un des leurs.
OK.
Fait que je vous recommande en dessous Sonny Duval. On va en écouter. On a déjà fait jouer à son propre groupe, Sonny Duval.
C'est vrai?
En solo. C'est super bon. C'est super
ça s'appelle juste Sonny Duval ou non? C'est pas...
Sonny Duval.
Ah oui? OK. Ouais. C'est son projet solo.
C'est son projet solo. Il y a deux albums. J'ai le premier. Je cherche le deuxième.
Et plus récemment, ben, comme tu disais en préambule, on l'a vu live au spectacle de Lisa Leblanc en fin 2022.
Ouais.
Donc, il fait partie du band de Lisa.
Oui. Et sa torche et sa garoche.
C'est vraiment un excellent guitariste. Là. Ouais. C'est vraiment une bête de scène aussi.
C'est pour ça que tu ne croyais pas qu'il était né en 1995. Parce
aucunement.
Quand on l'a vu.
Surtout que je l'ai... comme tu disais tantôt, j'ai vu les Breastfeeders quand j'avais, disons, dans une vingtaine. Et puis, il était déjà
plus vieux que toi.
Il était déjà plus vieux que moi.
Ouais.
Exactement. Mais oui, non, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, en dessous des chroniques... qui était dans la presse de Sonny Duval.
Oui.
Donc,
un livre physique.
Je ne savais même pas qu'il y avait eu des chroniques dans la presse.
Oui.
Il y a encore moins qu'il y avait un recueil de ces chroniques-là.
Oui. Je vais te le prêter à l'instant. Pendant la pause, tu vas pouvoir lire un de trois pages.
On va obtenir une petite chronique pendant la pause. On se retourne dans quelques... On revient dans quelques secondes. Restez des nôtres sur les ondes de CKUT 90.
CKUT is proud to present Fujita and I in concert on Sunday, May 21st at 1 p.m. at the 39th Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville. Sound artist Fujita builds his own instruments and is constantly searching for unusual musical settings. I, singer of the iconic bands The Boredoms and Naked City, plays everything from electronics to guitars to turntables, and of course, his own unique legendary voice. Come to Victo on Sunday, May 21st, for the 39th Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville to see and hear this incredible duo from Japan. For all the details, visit fema.qc.ca.
Si todo estuviera mejor,
parador, parador,
si todo estuviera
C'est fini? Oui, bonjour, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3. Je pensais que la toune était finie, mais non.
T'as-tu eu chaud?
J'ai eu chaud, il y a un petit à la toute fin. Excellente chanson de Fabulosos Cadillacs.
Yes, mister.
Un groupe argentin, sauf erreur.
Exactement.
Un groupe argentin, exactement, oui.
Exactement, oui, vous répétez parce que j'étais loin et j'étais allé chercher le CD que j'ai entre les mains, Vasos Vacios, les verres vides.
Oui.
C'est les grandes, los grandes éxitos de 85 et 93, de 1985 et 93, paru sur Sony Music.
Donc, les greatest hits.
Les greatest hits, mais il y a des pièces qui se retrouvent pas ailleurs. Moi, j'ai toute la discographie du band et je n'avais pas El Matador, à part sur une espèce de bootleg, là, whatever. Mais la version clean comme ça, là, studio, la version originale se retrouvait sur un Greatest Hits. Et il y a aussi la fameuse chanson des vases vides avec Cecilia Cruz, la grande dame cubaine de la musique salsa et
ouais,
tout ça.
Ouais,
fait que les gars, sur la pochette, il y a toutes les grandes chansons là-dessus. Ils sont, à ce moment-là, ils étaient 2, 4, 6, 8, 10. 10, il y était 10 dans le groupe.
Okay.
Los Fabulosos, gros groupe, là, beaucoup de. Tu sais, il y a des cuivres, il y a des claviers, guitare, tout ça.
Beaucoup de percussions aussi.
Beaucoup
hein?
de percussions, exactement. Drummer et percussions. Et c'était un gros groupe. Et là, ils sont dans un bar de Buenos Aires. Et là, ils ont toute une coupe à la main. Là. Ils sont dans une taverne. Et là, ben, c'est ça. Tu as les meilleurs tunes des années 80-90 du groupe, des versions remixées et tout ça. Grand groupe. Et moi, quand je pense à l'été, il y a deux pièces que je pense. Printemps-été de Jean Leloup et Matador me suit depuis toujours. Même si je ne l'avais pas, elle joue tellement souvent et partout là, dans la culture rock en espagnol. Parce
c'est vrai?
Que okay. Fabulosos, ça, c'est un très grand groupe. Et moi, quand j'ai entendu ça pour la première fois, il y a un petit côté samba, batucada, tu sais, les percussions là, de Oludo, Massavador de Bahia, toutes ces espèces de percussions au début que les Argentins sont allés chercher. Et quand tu voyages, là, ça vient te chercher. Là. Ça, c'est le son du rock en espagnol ou du Brésil, t'as ça.
Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est comme des rythmes brésiliens, un peu
exactement.
De.
Exactement.
Un peu afro, fanfare.
Afro, ouais, fanfare afro-brésilien, afro. C'est ça, une fanfare.
Oui, oui, oui. Non, c'est très festif, très printanier, exactement.
Exactement, c'est pour faire la fête, même si les paroles sont assez politiquement, socialement engagées. Ça a l'air d'une toune de fiesta de party. Là. C'est comme le reggaeton. Écoutez les paroles.
Ouais.
Vous pensez que c'est de la petite bière. Ah, c'est drôle, c'est funny.
Ouais.
C'est pas mal hardcore. Mais c'est dans un autre genre de hardcore.
Exactement.
Ouais. Informez-vous. Lisez les paroles. Lisez entre les lignes.
Exactement.
Hey, beaucoup de choses encore. Fidèle à mon habitude, une bande dessinée et un film. Là, je vais parler d'un film.
Ah ouais, donc, toi?
D'un Canadien qui est beau gosse, qui est devant la caméra habituellement, qui sort avec ou qui sortait, je sais pas, toutes les potins d'Hollywood, qui sortait avec la fameuse mademoiselle. Là, cherchons, non, je savais que j'allais.
Une autre actrice ou.
Oui, mademoiselle Sam Mendes, c'est ça son nom?
Non, Sam Mendes, c'est un réalisateur.
Non. Eva Mendes, c'est sa sœur.
Oh!
Eva Mendes.
Eva Mendes, non, ouais. J'ai aucune idée, c'est qui.
Mais regarde, je la montre à l'instant, la belle Eva Mendes.
OK.
Elle sort avec Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Ben oui, c'est sa blonde.
Il y a un acteur connu, ça.
C'est un Canadien.
Oui.
Et lui, habituellement, il est devant la caméra.
Oui.
Et le petit coquin, il ne me l'avait pas dit. moi, je suis Montréalais, fait que je suis Canadien.
Le petit
cachetier,
toi.
Il s'est mis derrière la caméra, il a pesé sur le piton, il a fait 1, 2, 3, action.
Fait qu'il est devenu caméraman, c'est ça que tu dis?
Ouais. Non, réalisateur.
Réalisateur?
Real. Il est devenu real.
Donc, il a écrit et réalisé un long métrage.
Un long métrage. Hey, dis pas court, là.
Non.
On n'a rien contre les courts, mais c'est un vrai film.
Alors, ça s'appelle Lost River.
Yes, sir.
Et c'est un film canadien. Réalisé et écrit par Ryan
Canadien,
Gosling.
Ben, canadien, je pense, je sais pas. Ça le
non?
Dit pas. Ben, je pense pas, moi.
OK. Et as-tu vu le film, Marc-André?
J'ai vu le film.
OK.
C'est complètement... C'est à catégoriser... Bon, premièrement, c'est
complètement...
14 ans et plus. En anglais, on dit tout simplement « disturbing content »,« mature team ».
Okay. Des thèmes matures et du contenu disturbant. Au Québec, 13 ans et plus, avec le petit signe de la régie, horreur. Et c'était fait en 2013. Lost River, là, I'll try to translate it as I read it. Lost River, c'est un film, c'est une dark fairy tale sur l'amour, la famille et la bataille de la survie face au danger. Et là, le danger, si on me dit, mais quel est le danger? C'est un danger dans une ville abandonnée qui est Lost River. Okay. Lost River, ça se passe dans une ville américaine. Ça peut être au Canada, tu as peut-être raison. Ça a l'air plus aux États-Unis, mais aux États-Unis, un peu comme Détroit.
Okay, ouais.
Tu sais, Détroit, Rock City, qui était abandonné et mal aimé. Ou, admettons, la Nouvelle-Orléans qui a eu
les inondations,
et qu'il y a une partie de la ville qui est laissée à l'abandon,
okay.
Mais que les gens, c'est leur maison, même si on est dans le quartier qui a été inondé, puis que leur maison est tout croche, puis que le toit s'effondre, puis il y a de la pourriture, puis tout ça, eux, ils n'ont pas d'autre place où aller. Fait qu'ils continuent d'habiter là. Continuous. ça se dit.
US.
Continuous en US d'habiter là. Fait qu'ils n'ont pas le choix, ils habitent là. Sauf que leur hypothèque, il faut qu'ils continuent à la payer, même si c'est un taudis.
Ouais.
C'est devenu un taudis, là, par. Puis que le reste de leurs voisins déménagent, mettent leur maison à terre. De toute façon, personne ne veut racheter ça. Là, les banquiers, comme des vautours, tournent autour d'eux. Et là, il y a une petite femme, une petite madame, qui habite là avec deux de ses enfants, un en bas âge et un ado. Et là, elle essaie de survivre comme elle peut dans une ville qui, malheureusement, down the hill. Okay. Ça va pas bien. Fait que c'est toute cette ambiance-là. C'est pas, comme je dis, c'est pas Détroit, c'est pas, mais c'est une ambiance-là, tu sais, là, qu'il y a eu aux États-Unis, les spéculations, le monde qui se font reprendre, saisir leur maison par la banque.
Okay.
Elle va voir la banque, elle essaie de négocier avec eux. Tu sais, eux, c'est des chiffres, hein. Tu sais, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de. Tu sais, même si tu verses des larmes, même si tu dis que tu as deux bambins, même si tu en arraches les deux bouts et tu as deux jobs, ils s'en balancent.
Ouais.
Fait que c'est ça le contexte.
Okay.
Mais c'est une ville fictive, là. Lost River, ça n'existe pas. C'est un peu Lost River, c'est quoi? C'est la rivière qui a débordé puis qui est rendue là. Puis la ville, tu sais, ça. C'est pas grave, mais tu sais.
Mais c'est que la ville est perdue.
La ville est perdue.
Ouais.
Mais la ville, elle s'appelle Lost River.
Ouais, c'est ça. Okay.
Est-elle prédestinée à se faire inonder? On le sait pas.
OK.
Super intéressant. Des acteurs pas connus, à part la fameuse blonde ou femme, je ne sais pas si c'est encore avec, pas Eva. Oui, Eva Mendes.
Ouais.
Qui est bonne, qui a un second rôle. C'est pas elle, la mère avec les deux enfants. Il n'a pas mis sa blonde en premier rôle, ça aurait peut-être moins passé. Fait que c'est un film, on va dire, je pense, indépendant. Moi, je vois pas de gros label, je les connais pas. Mais c'est un film que je te dirais d'ambiance. C'est pas de l'horreur, c'est de l'ambiance. C'est une pesanteur, une atmosphère glauque, dark, du monde qui vit dans leur maison.
La pauvreté.
Hoarding. Ouais, de la pauvreté, mais pas du misérabilisme. Pas du. Regarde, je suis pas capable de le dire.
Misérabilisme.
Exactement. Merci de m'aider. Merci d'être
pas là. Pas évident.
Surtout pas le matin.
Ouais, non, là.
Non, mais c'est ça. Fait que c'est très. Tu sais, du monde qui font du hoarding. Une madame, la voisine d'en face, qui ramasse tout en espérant que peut-être, tu sais. Ça va la sauver, ça va l'aider à ramasser des livres, des revues de life qui datent de 1950. Là, tu sais, ça sert à rien, ils sont tous chiffonnés. Mais tu sais, c'est comme la détresse autant physique que psychologique. Fait que c'est, sur ce point de vue-là, c'est très réussi. Il y a une musique d'ambiance pesante, déprimante. Okay. Fait que écoutez pas ça si vous êtes déprimé.
Ouais, un soir. Okay. Mais, ben, des fois, ça peut quand même faire du bien, même si.
Mais,
en tout cas,
Mais je te dirais, c'est dans les eaux de David Lynch.
OK.
Fait que c'est. Pense à Blue Velvet.
Oui.
Pense à un film que tout n'est pas compris, tout n'est pas dit.
Ah, OK, du mystère.
Du mystère, mais. Puis que ça ne va pas nécessairement finir bien ou mal, mais il n'y a pas de.
On va appeler ça une fin ouverte, mais on sait. Mais c'est le film, tu l'écoutes, puis tu te dis pourquoi j'écoute ça? C'est pour l'ambiance.
Ouais.
C'est pour les personnages qui sont développés, la mère qui se bat, le jeune adolescent qui n'accepte pas le sort que leur vie, ils vont perdre la maison, puis où est-ce qu'ils vont aller habiter. Fait qu'ils essayent de grappiller dans des édifices abandonnés, des maisons abandonnées, des choses. Mais tout le monde a pas mal passé avant lui.
Ouais.
Fait que c'est toute cette ambiance-là. Et comment la mère va essayer de s'en sortir en acceptant un boulot qu'elle sait pas c'est quoi, mais qui va être bien payé, maintenant c'est pas plus.
Oh.
Et là, l'engrenage embarque.
Okay.
Et ça affecte toute la famille, même un peu les voisins.
OK.
Fait que je vous le recommande. Un gars qui s'appelle Trey Taylor à Lando, tu sais, les espèces de publicités. Là. It's an amazing movie. It's the darkest movie I've ever seen. Non. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit a cinematic odyssey and a visual marvel.
OK. Donc, à voir.
Oui, les personnages, les comédiens, moi, je les ai pas vus, à part Mademoiselle Mendes, mais le jeune adolescent, très crédible, et il y a un ennemi, naturellement, il faut tout le temps qu'il y ait un némésis, un autre adolescent qui veut la même chose que lui, et qui est aussi très crédible et très très dégueulasse.
Ah ouais?
Oui.
Haïssable?
Haïssable
ouais.
À mourir.
OK.
Fait que très bon comédien ou c'est peut-être pas un rôle de composition, c'est
ouais.
Peut-être un natural.
Ah, tu penses?
Comme The Natural de Québec.
OK. Donc, Lost River.
Lost River.
Réalisé et écrit par Ryan Gosling.
Oui, le bel homme.
Et écoute, moi, je savais même pas qu'il avait réalisé des
plus.
Films.
Moi non plus.
J'avais aucune espèce d'idée. Là, tu dis que ça date de 2013.
C'est quand même vieux, hein?
Donc, c'est pas puis tout récent.
Pas super, il devait pas être super connu à ce moment-là.
Il y a 10 ans, écoute, c'est une bonne question. Je connais vraiment pas la carrière de ce monsieur-là.
Oui.
Mais ouais, peut-être qu'il commence à être connu, j'imagine, parce que, ouais. Pour produire un film indépendant, ça prend des sous. Donc, peut-être qu'il a réussi à ramasser son budget à travers ses rôles à Hollywood.
Oui, de fiction, exactement.
Ouais.
C'est vrai, ça fait
puis, ce serait le fun de voir aussi, on pourrait faire nos recherches nous-mêmes, sinon aller sur Internet.
Database.
Est-ce que Ryan Gosling a fait d'autres films?
Ça, j'ai pas été voir, mais j'étais curieux parce que ce film-là, j'en avais jamais entendu parler. Puis moi, j'étais un curieux, fait que je vais voir sur IMDb.
IMDb?
IMDb, oui.
Oui.
Sur les sites de cinéma. Et là, le film a été un flop commercial, mais on n'a jamais entendu parler.
Ouais.
Ça ne s'adresse pas à du monde qui veut du fast-food, excusez, entre guillemets, Hollywood. C'est plus du cinéma d'auteur, du cinéma de répertoire. Ça serait le genre de film qui jouerait dans les Midnight Movies. Tu sais, un peu glauque, un peu comme c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, c'est plus un je dirais pas un film expérimental, mais c'est un film, c'est un essai, là. Tu sais, c'est un auteur ouais. qui cherche. On va essayer quelque chose, on va essayer des nouvelles avenues, on va essayer de faire des nouvelles situations. Ben, c'est ça, Lost River.
OK. Surtout que si ça m'interpelle quand tu fais la comparaison avec David Lynch.
Ouais, mais c'est pas tout le monde qui est David Lynch non plus là. Mais
c'est
juste
sûr.
Si vous aimez les films qui sont pas tout cuits dans la bouche,
exactement.
Que l'ambiance est comme qu'est-ce qui se passe, je comprends rien.
Mais
c'est quoi le symbolisme de dans le film, tu vois, il y a une affaire symbolique. Tu sais, je pourrais faire une recherche, je le trouverais, mais j'ai voulu garder ça. Un peu comme, OK, c'est une quête, c'est une odyssée, justement. Ça n'a pas besoin d'être tout dit, tout cuit dans le
ouais,
dans
c'est
le bec.
Ça, exactement. Ouais. On est transporté dans un univers
ouais.
assez singulier, puis
exact.
Le temps d'un film, là, tu sais.
Oui. On a-tu encore du temps, Nelson?
On a un bon gros 10 minutes, Marc.
Ah, et là, je suis heureux. Là, vu que je te parlais de Détroit, ben, il y a un magazine américain qui s'appelle Art News. C'est une revue glacée couleur de toute beauté. Et. Je te parlais de Détroit. Moi, à Détroit, j'ai jamais été. Je suis allé à Philadelphie. Il y a beaucoup d'or, ça, à Philadelphie. Mais il y a, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, un artiste des années 90, quand la mode des DJ était vraiment au zénith, au top, un musicien qui s'appelait Carl Craig.
Oui, qui vient de Détroit.
Il vient de Détroit. C'est un DJ, un producer,
c'est aussi
un créateur de party, d'after party, d'installation. C'est lui.
C'est un pionnier de la techno, là, Carl Craig, là,
OK.
Dans le monde des DJ, là, c'est... Ouais.
OK.
Ouais.
Ben lui, il nous introduit, parce qu'il aime l'art, ben c'est un artiste, on va dire, musical, mais il aime aussi la création et l'art visuel et les installations. Et là, il nous parle de Thierry Guyton, The Heidelberg Project. 1986, ça a commencé, and it's outgoing. Ça veut dire que ça continue, ça ne l'a pas arrêté encore. On sait qu'à Détroit, c'est une Motor City, c'est une ville de bazou, de faire des autos à l'américaine.
De l'industrie automobile.
De l'automobile qui a crashé. On va, ouais. appeler, on va dire ça de même.
Oui, ouais, la ville, je pense qu'elle a... Ben, il me semble qu'elle avait fait faillite à un moment donné.
C'est à peu près ça.
Oui.
Fait que là, lui... Monsieur Thierry, on va l'appeler Thierry, il a décidé d'aller dans des endroits où est-ce que les maisons sont abandonnées, des endroits où est-ce que, on va dire, tout est délabré. Fait que là, tu vois mon lien avec Lost River. Et là, lui, il prend des maisons. Je te montre une photo à l'instant. Une grande, grande maison avec du clapboard blanc sur le côté. Des morceaux de toiture qui ont été refaites, une maison abandonnée sur le terrain. Lui, il fait comme des polka dot doors. Il fait là, des gros cercles de couleurs, là, assez enfantins, comme quand on était jeune, des pastels, des jaunes, tout ça. Son auto, c'est comme une auto tortue. C'est comme une espèce de camouflage de coquille de tortue.
Carapace de tortue.
Carapace de tortue. Merci de préciser pour nos auditeurs et auditrices. Fait que c'est ça qu'il fait dans cet endroit de Détroit. Il se réapproprie des containers, des cabanons. Et là, il remet de la vie finalement.
Donc, il va peinturer des maisons, peinturer
Des extérieurs.
Des sites abandonnés.
Abandonnés, plus ou moins abandonnés. Des fois, il va voir les propriétaires et dire, regarde, ça, c'est mon projet. Il l'a depuis 86. Puis j'imagine que quand tu as une maison, puis tu dis, ben regarde, va voir la maison sur telle rue, c'est moi qui l'ai faite. Fait que là, tu convaincs un propriétaire. Là, ben là, tu en as deux à ton actif. Là, ben une troisième. Puis là, ben ça s'accumule. Puis là, ben ça fait ce fameux projet qui est de Heidelberg Project.
Donc, il a fait plusieurs maisons à Détroit. Donc,
ouais.
Il a repeinturé des maisons
ouais.
de façon artistique. Donc, c'est comme des fresques. C'est des ouais. murales, là, littéralement.
Ouais. Exact.
Puis, c'est vraiment beau parce qu'effectivement, donc pour une maison qui est abandonnée, ça n'a pas l'air de ça.
Non.
Avec la murale qui est toute colorée, là, comme tu
exactement.
Dis, des polka dots. Là.
Puis, vu qu'il a l'air à faire beau et chaud à l'année longue, ben il a mis ses toiles, il fait des toiles grand format, des visages un peu d'art naïf et tout ça. Et il les expose là, sur les façades aussi des maisons. Fait que c'est très intéressant. Et c'est le DJ Carl Craig là, qui nous présente ça dans la revue Art News, qui est une revue américaine. Très intéressant. Celle-là, fait ironique, ça s'appelait The Money Issue. C'était le
numéro spécial.
Celle sur l'argent. Et là, on a des billets d'argent d'$1 qui sont découpés, chose à ne pas faire avec les Américains, jouer avec l'argent ou le drapeau américain. Et là, ben, il a découpé puis il a fait un arbre, comme un arbre où
est-ce qu'il
pousse l'argent, un collage de pièces de $1 papier déchiré, collé.
Wow.
Et là, il y a des artistes sur Instagram qui font ça aussi. Ils prennent un billet $1, soit la monnaie américaine ou la monnaie locale. Il y en a même, je pense, des artistes canadiens. Et ils vont faire des dessins. Ils vont dessiner, admettons, le président qui est dessus. Ils vont le modifier. Ou tu reconnaîtras même pas le billet, à part peut-être, admettons, le fameux triangle, l'œil de maçonnerie, whatever. Fait qu'ils se réapproprient, ils font comme un clash visuel sur des billets. Et il faut dire que c'est petit, ils font des détails assez hallucinants. Fait qu'il y a comme un mouvement de modifier, de jouer avec de l'argent papier.
OK.
Au Mexique aussi, les pesos.
Ah
oui?
Ouais. C'est intéressant.
Je vous le trouverai là, sur fond, Instagram.
Comme tu dis, se réapproprier le design sur les billets de banque, donc l'argent.
Oui.
Et parce qu'il faut comprendre qu'à la base, l'argent est désigné par quelqu'un
oui.
ou des personnes.
Oui.
Mais là, c'est comme de revisiter
oui.
puis de donner une autre
oui.
Une autre utilité, dans le fond.
Oui, puis là, la pièce, ça ne vaut plus rien. C'est rendu plus une pièce, une œuvre d'art. Et les gens montre le making of sur Instagram. Je ne me rappelle pas le nom du site ou de la page sur Instagram, mais vous pourrez le trouver ou je vous reviendrai là-dessus.
D'un mouvement à un moment donné, c'était des gens qui faisaient des dessins sur les 5 piastres, sur les 10 piastres.
OK.
Puis c'était que là, ça circulait, puis on pouvait comme refaire le dessin, puis en tout cas...
Ah, le continuer comme ouais, un cadavre ça. Exquis.
Ouais, sur ouais. Le visage. Ouais. Mais je pense que c'était découragé de faire ça, parce que
c'est
je pense que légalement, t'es pas supposé modifier le dollar, le billet de banque, disons.
Exactement. Ouais. C'est propriété de l'État ou quelque chose
comme ça.
Sauf qu'on a vu des 5 $ barbouillés, puis écrit n'importe quoi dessus.
Ouais.
Là,
une liste d'épicerie, oui.
Oui, ouais, exactement. Ah, je ne veux pas
un numéro de téléphone.
Sale. Ah, ouais.
Mais aujourd'hui, les billets canadiens, du moins, sont peut-être difficiles à...
Oui, ils sont plastifiés, je pense.
Ils sont comme en plastique, donc je ne suis pas sûr que les crayons peuvent facilement.
Il faudrait que ça soit des vieux dollars ou des dollars américains qui sont encore en papier. Ils ont pas été vraiment... Les 1 $ ils n'ont pas été vraiment plastifiés.
C'est vrai qu'aux États-Unis, le papier est comme plus papier.
Oui, exactement.
C'est pas comme ici. Là.
Exactement. En parlant de ça, on va parler de papier. J'ai du papier tout collé ensemble et broché ensemble. Et ça fait une bande dessinée.
Ben voyons.
Crois-le ou pas. J'ai ça entre les mains. Et là, j'ai un personnage qui s'appelle Judge Dredd.
Ah non, pas lui.
Tu sais qui?
Le fameux Judge Dredd, le policier, juge et procureur dans une personne. Donc, c'est un policier qui n'a pas besoin d'un procureur ni d'un juge pour décider de tout.
Exactement. Ça, c'est un policier du futur. Dans ce temps-là, il pensait que c'était dans les années 2000. Parce que là, c'est apparu sur une maison d'édition qui s'appelle 2000 AD, qui était créée par John Wagner au scénario. Et au début, le dessinateur, c'était Carlos Esquera. Mais là, après ça, tout le monde a mis la patte à ça. Même les éditeurs, ça s'est passé de DC Comics à Eagle Comics à Quality Comics. Moi, quand j'étais jeune, j'étais fasciné par ce personnage de fiction qui s'appelle Joseph Dredd, ou Joe pour les intimes, c'est Judge Dredd, et tu l'as très bien décrit. Et c'est un personnage d'une revue britannique de science-fiction pour adultes qui était 2000 AD en 1977. Ça date pas d'hier, sauf qu'ils ont fait des films. Il y en a un avec Sylvester Stallone, et il y a un revamp il y a une couple d'années. Malheureusement, les films ne sont pas... sont corrects, mais ne sont pas aussi bons que la bande dessinée qui est assez éclatée parce que Judge Dredd, il est incroyable. La ville Mega City One, c'est un New York ou un Buenos Aires de... multiplie le 20 millions fois, tu sais, c'est 200 millions, c'est l'anarchie, c'est le chaos social, et c'est juste les juges là, qui peuvent dicter la loi. Et dans cette méga-cité imaginaire d'un futur dystopique, post-apocalyptique, comme on les aime. Fait que là, dans cette bande dessinée-là, Control, c'est le titre de cet album-là, c'est une traduction, habituellement, c'est en anglais. La pochette est hallucinante, c'est Judge Dredd qui est tombé dans un trou. Il y a plein de squelettes et il y a des rats mutants aux yeux rouges globuleux. Et là, Judge Dredd, habituellement, il a peur de rien, il se sert de son arme comme son meilleur ami. Mais là, il n'a pas son âme et il est dans un solide pétrin. Fait que c'est plein de petites histoires dans ce recueil-là.
Okay.
Et moi, je me suis replongé dans mon adolescence de 14 ans quand j'avais découvert Judge Dredd et j'avais trippé solide. Fait que je vous la conseille si vous êtes un fan fini de science-fiction ou de moralité douteuse faite dans une ville et que seuls les judges peuvent juger.
Oui, dans le fond, c'est ça. Ils n'ont pas besoin d'un juge. Ils font tout eux-mêmes.
Oui.
Ils ont le droit.
Oui, ils peuvent même
exécuter. Ils doivent abuser, sûrement. C'est un peu ça.
Oui.
Parce que dans le fond, c'est un anti-héros. Hein. C'est pas...
c'est un anti-héros. Par contre, ses collègues sont souvent plus corrompus. Lui, il est quand même... Il y a une façon de voir les choses qui font du sens dans le contexte que c'est.
OK.
Fait que, lisez ça, le dessin est sur la coche, autant sur la couverture qu'à l'intérieur. C'est en couleur, un graphisme assez bien détaillé dans la lignée des Moebius et des dessinateurs qui dessinent généralement pour Alejandro Jodorowsky, Judge Dredd.
Excellent, Marc-André. Merci pour la suggestion. Bande dessinée. C'est déjà la fin de l'émission, Marc-André?
Ben oui, on avait de la belle musique. On va se reprendre la semaine prochaine sur de la bonne musique, des bonnes bandes dessinées et des bons films.
Restez sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On se dit à la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye bye.
Si você quiser, eu vou te dar amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa. Nossa felicidade, vamos brindar a.